Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Nous y voilà. Nous y voilà dans cet été post, ce que vous savez. En vacances ou pas, 2 mois à sniffer l'extérieur. N'oubliez surtout pas de respirer dès que le masque peut tomber. Europe 1 prend ses quartiers d'été. Culture Média est ouvert en juillet et en août. Les pieds dans les baskets de Philippe Vandel, qui à l'heure qu'il est, doit déjà être en claquettes, peut-être même en claquettes chaussettes. Et cet été 2020 démarre par un bol d'air venu d'une ville de bord de mer. C'était avant-hier et on a entendu ça.
Je voudrais commencer par une citation. Elle est de Blaise Cendrasse. Marseille appartient à qui vient du large.
Michèle Rubirola, première femme maire de Marseille sous les auspices de Blaise Cendrasse. Ouais, en marseillais, Cendrasse se dit Cendrasse. C'est le fait média du jour. Comment parler de Marseille avec nuance, sans trop empiler les clichés? Comment cerner une ville complexe? Nous serons avec le journaliste, écrivain, documentariste et prix Albert Londres, Albert Londres d'ailleurs, Philippe Pujol. Il raconte Marseille comme personne. Ce sera après le journal des médias, assuré tout l'été par Martin Cangelosi. L'invité média du jour a pris la vague avec sérieux. Le journaliste Patrick Cohen s'est illustré à la télé pendant le confinement. Avec des chroniques fort travaillées et fort remarquées dans cet avou, on va le déranger au tout début de ses vacances. À partir de 10h, celle dont la magnifique voix devient aussi une arme de combat, Camélia Jordana sera là, son nouveau single « Facile » nous envoûte déjà. Le film « La nuit venue » où elle joue une stripteaseuse amoureuse d'un chauffeur Uber tenu par la mafia chinoise va arriver dans les salles. Au menu du journal de la culture assuré tout l'été par Damien Cabrespine, une triste nouvelle puisque on vient de l'apprendre, l'immense musicien Ennio Morricone vient de mourir à l'âge de 91 ans. Tristesse comme un harmonica qui pleure. Culture Média de l'été est préparée par Julien Cottreau et Thibault Lambert et réalisée par Romain Le Borgne. Nous y voilà. J'allais oublier, tellement impressionnée de vous retrouver. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, très heureux de vous retrouver.
Ben oui, un petit peu de Morricone, on en reviendra évidemment plus longuement dans la deuxième partie. Nous aussi, Martin, on passe l'été ensemble. Qu'y a-t-il dans votre premier journal des médias de l'été?
La fin d'une époque sur BFM TV, n'ayons pas peur des mots Pascal. On parlera aussi de beaucoup d'argent pour sauver les médias, quoique peut-être pas tant que ça. Et puis Spotify, Pascal, qui veut se mêler de vos histoires d'amour, enfin presque.
Et on commence par les audiences, Martin.
Alors hier soir, carton pour TF1 et son film américain 2012. 2012, c'est le nom du film. 4,5 millions de téléspectateurs. Un téléspectateur sur 4 devant TF1. Juste derrière France 3 avec sa série canadienne Hudson and Rex. 2,7 millions de téléspectateurs. En fin de podium, M6 et son magazine Capital. 2,2 millions de téléspectateurs.
Et en début de week-end?
C'est plutôt rare, M6 s'impose vendredi soir devant France 2 et TF1 avec sa toute nouvelle série américaine Reef Break, 3 400 000 téléspectateurs. Samedi soir, TF1 reprend le leadership avec son jeu Les 12 coups de midi, exceptionnellement en prime time, 4 300 000 téléspectateurs devant TF1.
Et l'on retiendra aussi ce week-end 2 autres audiences un petit peu attendues.
Et notamment le nouveau Premier ministre Jean Castex aux 20h de TF1. Vendredi soir, il a été très suivi, 5 800 000 téléspectateurs, c'est quasiment un téléspectateur sur 3. Et puis samedi, en fin de soirée...
Alors attendez, faut répéter après moi, Castex cartonne.
Castex cartonne,
voilà,
j'y suis
c'est
arrivé.
Un truc de langage, très bien.
Castex cartonne, j'ai réussi cette première. Et puis samedi, en fin de soirée, après 14 ans d'antenne, c'était les adieux d'On n'est pas couché de Laurent Ruquier. 12,7% du public. L'émission n'avait pas fait aussi bien depuis mars dernier tout de même.
Culture Média.
Et votre journal des médias, Martin, commence avec ce mouvement du côté de BFM TV et de ses incarnations.
Ruth El-Krieff, Pascal, ne présentera plus son émission politique quotidienne chaque soir à 19h. Le Tout Info, c'est fini. C'est un tournant dans ma carrière. Reconnaît dans le JDD celle qui a présenté tout de même le tout premier journal de BFM TV. C'était en 2005. Son remplaçant n'a pas encore été officiellement choisi. Il ou elle devra limiter les poussées d'audience juste en face de CNews qui mise sur le très controversé Éric Zemmour. À sa place, à la rentrée sur BFM, la journaliste de 59 ans sera à la tête d'une grande interview le samedi. Il s'agit désormais de prendre plus de temps et plus de recul, nous dit-on.
Un changement, un de plus, pourrait-on dire, pour la chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel.
Autre information du week-end, révélée par Satellifax, Alice Darfeuille, qui co-présente jusque-là la tranche du midi, va échanger sa place avec Céline Pitlet, habituellement présente...
Sans blague. Alors si on m'avait dit ça...
Céline, vous ne vous y attendez pas, Céline Pitlet, habituellement présentatrice des soirées le week-end, au bout d'un an seulement sur BFM TV. C'est donc une promotion pour Alice Darfeuille. Elle aura désormais sa propre émission de débat.
Et on savait aussi depuis quelques jours que Bruce Toussaint ne serait plus là le soir, après deux années aux audiences parfois décevantes. Ah bon ? Il va prendre le 9h midi de la chaîne.
Or, gros coup d'actu à cette heure-ci, BFM TV est souvent malmené, voire battu par CNews. Reste alors une question. Que va récupérer Thomas Misraki, qui doit laisser sa place ? Alors, selon nos informations, la direction de BFM TV n'a pas eu dans l'immédiat d'autres émissions à lui offrir et lui a même proposé de redevenir simple reporter. Thomas Misraki pourrait alors préférer quitter le groupe.
On continue ce journal avec des personnalités des médias honorées.
Alors, ils sont récompensés maintenant, Pascal, au début de l'été, mais ils sont, c'est leur nom officiel, la promotion d'hiver 2020 de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est joli comme nom,
n'est-ce
pas ?
C'est comme la mode, finalement. Ouais.
C'est comme la mode. Avant de vous révéler qui a été décoré par le ministre de la Culture, si vous le voulez bien, j'ai quand même voulu vérifier à quoi consistait cette distinction. Elle récompense, alors attention, ouvrez les guillemets, les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par leur contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. C'est long. Mais maintenant, vous savez à quoi il s'agit.
Maintenant qu'on a la définition, on veut bien les noms, s'il vous plaît, Martin.
Alors, ils sont faits chevaliers. L'animatrice de TF1, Alessandra Sublé, journaliste Augustin Trapenard, le producteur de télé, Franck Saura, ou encore la présentatrice des JT de TF1, Anne-Claire Coudray. Sa consoeur au JT de France 2, Anne-Sophie Lapix, elle est aussi décorée, mais au rang supérieur d'officier. Et enfin, commandeur, rien que ça, Fabrice Bousteau. Il est peu connu du grand public, mais il dirige Beaux-Arts Magazine.
Faut-il accepter des décorations quand on est journaliste ? C'est un vrai débat. Martin, le ministère de la Culture, qui, quand il ne décore pas des personnalités, doit aussi défendre son bilan à l'heure du remaniement, et notamment son grand plan d'aide accordé aux médias.
Pascal, un chiffre revient très régulièrement. D'un côté, 8 milliards d'euros, c'est ce qu'a obtenu le secteur de l'automobile avec le Covid. D'un autre côté, 2 milliards, c'est ce qu'a obtenu l'audiovisuel et le cinéma. Sauf que voilà, en France, les voitures d'un côté, les télés, les radios, la presse et le 7e art d'un autre côté, eh bien les deux pèsent autant l'un que l'autre en termes d'emploi et dans l'économie en général. Vous aurez donc fait le calcul. À poids équivalent, il y a une différence d'aide de 5 milliards d'euros.
Martin Cangelosi pour ce premier journal des médias. Ouais, je sais, il y avait encore des choses, mais vous savez...
On attend demain.
Demain est un autre jour. Musique, on a tous un titre qui restera, celui du confinement.
9h, 11h, Culture Média, Pascal Clark.
On peut toujours compter sur Marseille pour nous servir un scénario digne d'une série rebondissement, trahison, alliance, mésalliance. Avant-hier, la deuxième ville de France, ça y est, je suis fâchée avec les Lyonnais, a élu au terme d'un conseil municipal mouvementé Michel Rubirola à sa tête après 25 années de règne de Jean-Claude Gaudin. Printemps marseillais au début de l'été, première femme maire de Marseille, de bonne mère. Comment raconte-t-on cette ville si particulière ? Comment éviter les clichés qu'elle semble accumuler ? Direction Marseille. Bonjour Philippe Pujol.
Bonjour.
Merci à vous d'être l'invité de Culture Média. Vous êtes journaliste, écrivain, documentariste, l'un des meilleurs à capturer la ville. Votre travail vous a valu le prix Albert Londres il y a 6 ans pour une série d'articles dans la Marseillaise, quartier chic. D'abord, comment s'est passé le week-end à Marseille ? Une certaine atmosphère post-élection ?
Oh, d'abord, il y a eu l'atmosphère de samedi qui était surréaliste, de crainte pour beaucoup de se faire voler l'élection. Et après, il y a eu la joie, évidemment, puisque les gens n'y croyaient pas, on n'arrivait pas à savoir. On sort de 25 ans d'un système bien en place, enfin, il est même plus vieux que ça, le système, mais il était incarné depuis 25 ans, depuis Jean-Claude Gaudin. Ces systèmes sont tellement ancrés que les gens se disaient, c'est impossible à ce que ça change. Et bien, ça s'est fait, ça devrait changer.
Pour vous, quelle est l'image forte de ce fameux samedi de conseil municipal ? C'est Jean-Claude Gaudin qui embrasse la nouvelle maire, Michel Rubirola. C'est ça l'image forte ?
Non, il y en a deux pour moi. qui sont opposés, c'est tous ces élus, dont la maire, dont la nouvelle maire de Marseille, qui sortent et qui sont acclamés par la foule et qui versent des larmes, alors que l'exécutif d'avant n'a versé aucune larme sur les 8 morts de la rue d'Aubagne. Là, il y a des gens qui versent des larmes sur une victoire et sur quelque chose d'assez simple, finalement. Et en même temps, il y a cette image terrible, je trouve, de Jean-Claude Gaudin qui part en catimini pour la dernière fois de la ville. Il part dans sa voiture, enfin dans la voiture qui va le transporter jusqu'à chez lui. Et je trouve que c'est une sortie un peu triste, quand même, pour quelqu'un qui a 130 ans de mandat cumulé, qui a fait plus de 50 ans à Marseille, qui a incarné Marseille. Alors, je suis pas triste pour lui, mais je trouve que l'image est triste et il a pas eu sa sortie qu'il devait espérer, celle devant les Marseillais, quoi.
Je crois que c'est une image qui a été capturée d'ailleurs par un caméraman de France 3. La victoire de Michel Rubirola grâce au ralliement in extremis de Samy Hegali, c'est aussi la victoire du Nord sur le Sud. On peut dire les choses comme ça pour comprendre Marseille. Il faut tout de suite décrire la topographie de la ville.
Oui et non. C'est-à-dire que Samy Hegali est bien implanté dans son secteur, un secteur des quartiers Nord. C'est une élue qui travaille beaucoup sur les quartiers Nord depuis longtemps et qui est une élue qui a une ampleur nationale puisqu'elle est sénatrice. Donc c'est pas simplement une petite élue des quartiers Nord, loin de là. Et de l'autre côté, le printemps marseillais a quand même fait pratiquement le même nombre de voix dans les quartiers nord, dans le secteur de Samy Hegali. Ils ont perdu de très peu, ce qui veut dire que les deux représentent finalement les quartiers nord. Et c'est ces deux gauches qui se sont unies, en fait. C'est une gauche populaire et une gauche que j'appellerais écologiste. Et ce qui est nouveau à Marseille, c'est d'avoir réussi, même si c'est très tardivement, dans la douleur, à avoir réuni ces deux gauches. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un exemple pour le national derrière. Le printemps marseillais, c'est quelque chose... comme la Marseillaise est montée de Marseille, ben, le printemps marseillais va peut-être monter de Marseille aussi.
Alors, quand on regarde Marseille, il y a des images terribles qui restent dans les mémoires. C'est celle de ce jour de novembre 2018 où des immeubles s'effondrent dans la rue d'Aubagne, faisant 8 morts. La rue d'Aubagne, c'est vraiment au centre de Marseille. Faut pas croire que la pauvreté ne soit que dans les quartiers nord. Ces images-là et tout ce qui a suivi la mobilisation, on arrive à l'un des éléments déclencheurs ayant amené le changement, pensez-vous ?
Ça change tout, oui. La rue d'Aubagne, c'est presque le centre de gravité de Marseille. C'est-à-dire Marseille repose là-dessus, en équilibre. Et quand ça s'effondre, ben tout s'effondre. Mais toutes les valeurs s'effondrent. Et ensuite, il y a eu tous les dénis, tout le cynisme de l'exécutif en place. Et surtout, ça a soudé des gens qui étaient assez éparpillés. Et ça a remis un peu d'espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de combat. Ça a remis un peu d'espoir chez une petite partie de la population qui a fait que grossir pour arriver jusqu'à samedi. Donc oui, c'est un élément, c'est-à-dire qu'il y avait eu un travail fait avant, mais qui ne prenait pas. Et là, d'un seul coup, ça a soudé tout le monde.
Dans deux de vos livres, Philippe Pujol, vous avez donné un surnom, non pas à la ville de Marseille, mais au système alors en place, le monstre. Hein, on peut lire La fabrique du monstre et La chute du monstre. Deux réquisitoires assez implacables, décrivant des rouages faits de corruption, d'abandon. C'est vrai pour l'habitat, c'est vrai pour les écoles. Est-ce que ça vous a valu des problèmes après ça ? Comment avez-vous fait pour continuer à travailler en toute quiétude à Marseille ?
Bon, on a toujours des problèmes quand on écrit ce genre de livre, évidemment. Et il faut accepter ça. C'est dur hein, d'écrire des livres pareils. Il hein. y a la gloire, hein. Après, il y a les gens qui te reconnaissent dans la rue, qui tapent dans le dos, mais il y a évidemment beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices, c'est certain. Bon, c'est pas très important là aujourd'hui, hein. Mais c'est des livres compliqués à faire, et quand on les écrit, on pense déjà à la parade tant judiciaire, j'ai gagné tous mes procès, que la parade même par rapport au banditisme ou par rapport à d'autres personnes. Et voilà, enfin, c'est ce qui est le plus dur à écrire dans ces livres, c'est justement pour s'en sortir à chaque fois qu'on écrit une page, de dire comment je vais m'en sortir de cette page. Bon, j'y suis arrivé jusque-là.
Avec quelques coups de pression peut-être.
Oui, mais ça c'est même un peu plus, mais ça va.
Des menaces ?
C'est mon job, je dirais. Oui, des menaces, il y en a tout le temps. Mais on s'en sort de ça. Enfin, moi, je suis pas très sensible, si vous voulez. Je vais pas être de ceux qui vont se plaindre, la presse, attaquer. Non, je fais ce job-là avec quelque chose de très compliqué. Mes sujets sont compliqués. Donc j'accepte l'idée que, en retour, je vais avoir des pressions.
Après, on va continuer à en parler, Philippe Pujol. Pardonnez-moi de vous interrompre un peu violemment comme ça. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Belle matinée à vous. On revient, on retourne à Marseille.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Dans la représentation romanesque de Marseille, il y a bien évidemment le feuilleton Plus belle la vie, mais il y a aussi la série Netflix, sobrement intitulée Marseille, souvenez-vous.
Je sais, monsieur le maire, qu'il fait grandir dans vos pas. Mais à un moment, il faut quitter le nid. Il est évident que vous représentez le passé et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains.
Je ne veux pas de débat avec lui.
Tu vas aller au débat et tu vas le planter. Barrès est un espèce de connard, d'accord ?
Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Philippe Pujol, journaliste, écrivain, documentariste et scénariste. C'est ça, vous avez sévi sur cette série Marseille au scénario ?
Bah après la saison 1, on a fait appel à moi pour la saison 2 et j'avais un cahier des charges à remplir pour...
on peut pas tout réussir dans la vie.
Accepter
hein,
ce qu'il fallait faire.
Voilà, voilà.
Et donc j'ai fait la trame générale de la saison 2 et je suis parti.
Si on cherche une bonne
série, ça va.
Si on cherche une bonne série, ce serait plutôt.
Et en plus, on a failli avoir raison, c'est-à-dire la saison 2, le Front National prend la ville avec les voix de la droite la plus extrême et à un moment c'était envisagé à Marseille, donc on avait un petit peu de clairvoyance.
Oui, sauf que ça n'est pas arrivé, comme vous le savez. Donc,
c'est pas arrivé.
Ça aurait pu. Ouais. Si on cherche vraiment une série, c'est Game of Thrones, évidemment, pour Marseille, non ?
Je sais pas, c'est un mélange de plein de choses.
Ouais.
Parce qu'il y a un mélange toujours pareil de pagnolade apparente, mais en fait, c'est pas du tout la pagnolade, parce qu'on parle de sujets très graves, et de Game of Thrones, sauf que les dragons, ils sont encore plus méchants chez nous, quoi. Je sais pas quelle série on pourrait faire, parce qu'il y a même du Dexter dedans, hein, tellement il y a des tueurs de partout. Donc c'est vraiment impossible à rendre en série, en fait, ce qui se passe à Marseille. Parce qu'on a, ce mélange d'anti-parisianisme, de pocherisme, on fait semblant d'être idiot pour pouvoir arriver à ses fins.
Pocherisme.
En marseillais, ça veut dire aux pauvres... je suis pas grand-chose, ça veut dire ça, pocher. Et en fait, on fait semblant d'être rien... Et en fait, il y a des gens qui sont puissants qui font ça. Et c'est assez dur à rendre en film, en série. C'est quelque chose qui... Il n'y a pas eu de grande réussite là-dessus, hein, sur ce sujet-là, hein, je parle précisément. Pas sur les films sociaux. Les films sociaux, à Marseille, il y en a des très bons, évidemment. Guédiguian, par exemple. Pour rendre la magouille politique marseillaise, c'est pas simple, c'est clair.
Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, Philippe Pujol, cette opposition permanente et quasi congénitale, on dirait, entre Marseille et Paris, et pas que dans le foot, évidemment. Comment vous l'expliquez ?
Oh, c'est très ancien. En fait, le foot, c'est qu'un symbole là-dedans. L'opposition Marseille-Paris, c'est une opposition ville populaire contre ville populaire contre capitale de l'élite. Et ça date dans l'histoire de Marseille est rentré assez tard en France, dans la France. Et donc, il y a eu des résistances. Et quand l'État français, enfin les premiers rois, a essayé de faire comme ont toujours fait les Français, c'est-à-dire d'imposer leur culture en région, eh bien, les régions ont résisté. Marseille a beaucoup résisté. Ça a passé les siècles et c'est arrivé jusqu'aux années 80 où là on s'en est servi pour du marketing. Canal Plus de son côté venait d'avoir Paris, Bernard Tapie venait d'acheter l'OM et ils se sont mis d'accord pour inventer cette opposition OM-Paris. Parce qu'avant l'opposition c'était Bordeaux-Marseille, Bordeaux la bourgeoise, Marseille la populaire dans le foot. Et ça c'est qu'au milieu des années 80 qu'il y a eu ça. Mais en fait c'est une opposition entre la province et l'élite, c'est ça. Et on vous parliez des accents tout à l'heure. Moi, quand je passe à la télé, j'enlève mon accent. Parce que sinon, on me parle que de mon accent. Et donc, c'est un petit peu ça aussi, cette obligation qu'on a.
Vous pouvez avoir l'accent ou pas l'accent, c'est en fonction de là où vous êtes.
Moi, ça y est, je me mets à parler comme ça. Voilà, ben là, je n'ai plus aucun accent. À part le haut, à part le risque sur le haut, je ne peux pas dire un flamand rose. Je peux pas, je suis obligé de dire flamand rose. Mais pour le reste, je suis capable d'enlever mon accent. Et je remarquais qu'à chaque fois que je faisais des télés avec mon accent, je me prenais 2 minutes d'accent. Et comme on passe que 5 minutes à la télé, il faut garder un peu de temps. Et ce qui fait que Voilà, quand on est Marseillais, là, je ne fais pas d'effort, je vous laisse mon accent. Mais c'est quelque chose que je prends en compte parce que, quoi qu'il arrive, on est le Marseillais. On t'appelle à le Marseillais. Tu peux avoir le prix Albert Londres, ce que tu veux, tu es le Marseillais tout le temps. Je ne sais pas si les Marseillais sont les seuls responsables de ça, mais un côté un petit peu... un peu grand guignol qu'on fait porter aux Marseillais qui fait que les Marseillais eux-mêmes se mettent dans une rébellion. Il y a une sorte de surenchère permanente là-dessus.
Et en plus, je ne vais pas le dire trop fort, mais vous êtes né à Paris, Philippe Pujol.
Je suis né à Paris.
Ah, la route.
D'une mère corse. Oui, je suis né à Paris. Bon, j'y suis resté un an. Hein.
Oui.
Je n'ai pas fait exprès. Hein.
Vous allez continuer.
C'est pas ma faute.
Vous allez continuer à travailler sur Marseille. Cette ville n'a pas dit votre dernier mot. Il y a un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur arte.fr. Très joli documentaire, Péril sur la ville. Vous n'en avez pas terminé avec Marseille?
Je ne fais pas que Marseille. Hein. En ce moment, j'ai des choses sur la Corse. Par
oui.
exemple, j'ai un roman Western Corse.
Un
j'ai
roman
un podcast
Corse,
sur
ouais.
la Corse. Mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait sur le fascisme, j'ai fait sur la santé. Après, c'est vrai que moi, on me voit par rapport à Marseille. Pour le moment, je vais faire moins de Marseille, c'est sûr, parce qu'il y aura moins à raconter, je pense. Mais j'y reviendrai probablement. Après, raconter Marseille comme sur Péril sur la ville, c'est-à-dire faire un film poétique, c'était mon but, du journalisme poétique, comme les Russes, comme Maïakovski, tout ça. C'était ça mon objectif. Ça, j'ai envie de refaire ça. J'aime bien... L'idée aussi dans la forme de changer complètement quoi. Je vais pas refaire des Fabriques du monstre, Chute du monstre, Le retour du monstre, Monstre et compagnie, ça existe déjà.
Le monstre est tombé. Voilà, Péril sur la ville sur arte.fr, vous pouvez toujours le voir. Vous pouvez quand même lire La Fabrique du monstre aux arènes, La chute du monstre au seuil. Et aussi Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera, chez Flammarion. Merci beaucoup Philippe Pujol.
Merci à vous.
D'avoir été l'invité de ce premier Culture Média de l'été. Et puis depuis Paris, merci de saluer Marseille. On compte sur vous.
Je le fais.
Bonne
avec
journée.
Plaisir. Bonne journée, au revoir.
À suivre l'invité média du jour, le journaliste Patrick Cohen à la télé en plein confinement. Il a pris la vague. Belle matinée à vous sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
À peine en vacances et déjà harcelé par Culture Média. Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour Pascal.
Bien dormi?
Oui. Oui, je vous remercie. Oui.
Je vous dérange parce que j'avais une petite question à vous poser dès cette première du Culture Média Estival. Ça ne pouvait pas attendre. J'y vais. Qu'est-ce que ça fait d'être aimé?
D'être aimé? Vous faites allusion aux messages des réseaux sociaux, des choses comme ça.
Je vais expliquer parce que je sais. Je vais expliquer,
expliquer
un petit peu.
Avant.
Non, ça s'est passé pendant le confinement. Hein. Vous étiez à l'antenne tous les soirs, à la télé, en plateau, dans l'émission de France 5, c'est à vous. Et il se trouve que vos interventions ont été fort remarquées en bien. Est-ce que vous avez senti passer cette vague-là comme une vague d'amour?
Oui, mais je garde toujours beaucoup de distance avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je me méfie des emballements de Twitter et autres messages Facebook. Et puis à côté de ces messages d'amour ou d'estime, comme vous voudrez, j'ai eu aussi mon lot de critiques et de donc voilà. Mes interventions ont été remarquées, elles ont été diversement appréciées. J'ai eu quelques retours d'affection ou d'estime, ça fait toujours plaisir, mais je n'en fais pas un baromètre de ce que je produit ou de la qualité de mon travail. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir des messages et des retours qui marquent de l'intérêt pour ce que vous faites, mais je garde de la distance avec tout ça.
Quand cette chose inouïe nous est tombée dessus, cet événement qui a quand même neutralisé la quasi-intégralité de la planète, comment avez-vous abordé cet événement? Comme journaliste, évidemment, comment vous êtes-vous dit « je vais le traiter » et comment faire ?
Écoutez, d'abord, je l'ai pas vu venir, comme beaucoup. Moi, j'étais très très incrédule face aux perspectives parfois alarmistes qui étaient données sur certaines chaînes d'information. Il y avait bien avant le confinement, il y avait des spéciales. Je trouvais ça démesuré. Vraiment, j'ai été comme beaucoup de non spécialistes et parfois même comme un certain nombre de spécialistes. Complètement surpris, estomaqué par ce qui nous tombait dessus. Et puis ensuite, j'ai trouvé que c'était une matière passionnante, foisonnante, avec une masse d'informations. J'ai eu le sentiment de devoir faire mon travail, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait, quelle était cette maladie nouvelle et inconnue qui nous tombait dessus, qui nous contraignait à nous enfermer chez nous. Et puis c'était une période journalistique vraiment passionnante, parce qu'il y avait énormément d'informations scientifiques dans tous les domaines. Donc j'ai essayé de comprendre d'abord moi-même, et depuis de faire comprendre ce qui nous arrivait, ce qu'on savait, ce qui nous connaissait. Ce qu'on connaissait, j'ai très vite pris contact avec des médecins, des scientifiques, des chercheurs. J'avais un petit réseau, un petit nombre de gens que je consultais régulièrement. Je regardais les études aussi. J'ai beaucoup vu. Après, j'ai lâché parce qu'il y en avait trop, les études scientifiques qui paraissait dès le début de l'épisode, en mars, en très grand nombre, chaque jour. J'ai essayé de construire quelque chose, et un faisceau de connaissances et d'explications qui pouvaient être utiles au grand public.
Et on va quand même réécouter quelques secondes ce que ça donnait. Ça donnait ça, exemple, à la recherche des masques manquants.
Alors, s'il y a gâchis, il est d'abord dans la façon dont l'État a laissé filer ses stocks depuis 10 ans, longue histoire sur laquelle je vais revenir. Mais je vous présente d'abord le vaste hangar qui, s'il avait été rempli, bien rempli, aurait pu tout régler. C'est la plateforme nationale des stocks stratégiques de santé.
Voilà, ça durait 5-6 minutes, hein, on ne peut pas tout repasser. Il y a eu beaucoup de vues en ligne. Ce fut une crise aussi sans certitude. Ne pas savoir, chacun a dû s'y faire, les médecins, les politiques et aussi les journalistes. Ça vous a décontenancé, vous, ou vous avez intégré ça dès le départ ?
Oui, je l'ai intégré, et voyez, en réécoutant le petit extrait que vous venez de diffuser, j'entends que je dis une bêtise, parce qu'aujourd'hui, je disais, voici le hangar qui, s'il avait été rempli, aurait pu tout régler. Aujourd'hui, je suis à peu près convaincu que si ce hangar avait été rempli d'un milliard de masques, ça n'aurait pas pu tout régler. Ça aurait pu régler la question des masques, sur laquelle on a beaucoup glosé, et sur laquelle on a fait une sorte de fixation qui est assez unique d'ailleurs en Europe, hein, en France. Mais ça n'aurait pas pu régler la question de l'épidémie. Et non, je suis à peu près convaincu qu'on aurait pas pu éviter le confinement s'il y avait des masques. Oui, cette incertitude, elle est consubstantielle à la démarche scientifique, à l'examen des connaissances sur une maladie nouvelle, connaissances qui n'ont cessé d'évoluer pendant toute la durée de l'épidémie. Ce qu'on sait aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on savait début mars. C'est pour ça que les lectures rétroactives rétrospective sur, mais évidemment, on le savait depuis décembre, il aurait fallu faire ça, c'était très simple, etc. Je pense que c'est particulièrement énervant et faux, ouais. Tout simplement.
Dans ce maelstrom, il y a évidemment le cas Raoult, professeur Didier Raoult de Marseille. On va en reparler, c'est tout de suite après la pub. Ne bougez pas, Patrick Cohen, et vous non plus qui nous écoutez. Bonne matinée, oui. À vous sur Europe 1.
9h, 11h. Culture Média, Pascal Clark.
Patrick Cohen d'Europe 1, Patrick Cohen de C'est à vous sur France 5, est l'invité média de ce lundi 6 juillet. Et fatalement, tout au long de vos chroniques confinées, Patrick, vous êtes heurté au cas Didier Raoult, professeur de Marseille, soutenu, mordicus, lui et sa chloroquine, par des tas de gens. Comment avez-vous abordé ce phénomène qui a fait que vous avez été taxé d'anti-Raoult ?
Alors, D'abord, Didier Raoult, je l'avais croisé une fois ou deux, je crois que c'est deux fois auparavant sur le plateau de C'est à vous. Ces dernières années, il venait de présenter ses livres, et dès qu'il est réapparu sur la scène médiatique et scientifique, moi j'avais quelques warnings qui s'étaient allumés, c'est-à-dire que un scientifique qui petit un dit, il l'a dit dans ses livres et dans ses chroniques, qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique, ou plus exactement que le réchauffement climatique il ne le voyait pas, petit deux que Darwin avait tout faux, il en a fait un livre, et petit trois que il y a des questions à se poser sur les vaccins et sur le nombre de vaccins administrés, ne serait-ce que ces trois choses-là, moi ça me pose un problème, et je vous parle de warning allumé sur le crédit scientifique qu'on peut accorder à quelqu'un qui avance tout ça sans démonstration et à rebours du consensus scientifique général sur ces questions-là.
Donc quand la crise sanitaire explose, vous n'avez pas une énorme confiance en lui, pour dire les choses clairement.
Méfiance. Je le dis d'ailleurs à la rédaction d'Europe 1, parce qu'on l'a dès le lendemain de sa conférence fin de partie, on a trouvé le remède, la chloroquine d'ailleurs, qui n'était pas l'hydroxychloroquine à ce moment-là, il a changé de traitement en cours de route. Je dis attention, ce type est marginal, en tout cas il faut regarder de près, etc. Bon, et puis ensuite il y a les études qu'il a produites, les documents qu'il a publiés.
On va pas refaire toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais que faire face à tous ces gens qui le suivent, qui le soutiennent, Patrick Cohen ?
Eh ben, essayer d'apporter un peu de rationalité, d'éléments d'explication, de faits, de logique. C'est difficile, c'est très difficile, et je suis pas certain d'avoir convaincu ou d'avoir fait changer la conviction de qui que ce soit. Mais bon, voilà, il faut faire le boulot quand même et essayer de montrer les failles du raisonnement ou d'une démarche scientifique contestée par la plupart, sinon par la quasi-totalité des scientifiques. Mais il fallait écouter son discours et ses interventions. Moi, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Raoult, et c'est évidemment intéressant, et c'était contestable.
Vous trouvez qu'il est de plus en plus compliqué à exercer ce métier de journaliste, comme on dit, en période de post-vérité ?
Oui, il y a la période de post-vérité, il y a aussi la puissance des chaînes info qui naturellement, parce que c'est leur fonction, c'est leur mécanique, créent de la controverse. Elles sont là pour ça. Enfin, les talks qui sont du matin au soir sur les chaînes info, si vous réunissez autour de la table des gens qui sont d'accord entre eux, enfin ça ne marchera pas et ça ne fera pas d'audience. Donc il y a un phénomène de surreprésentation des opinions minoritaires. Dans le cas Raoult, ou dans le cas de la crise du Covid, ça aboutit à donner le sentiment qui est celui assez général, que les scientifiques ont passé leur temps à se foutre sur la gueule et à étaler leurs désaccords, ce qui je crois n'est pas vrai. Il y avait un très grand consensus scientifique sur la plupart des questions. Quelques dissidents, dont Didier Raoult, mais qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont alimenté des heures et des heures d'antenne et de controverses, et donnant cette impression de confusion générale, de chaos et de bataille scientifique qui, je crois, n'existait pas. Donc il y a ce système-là aussi qui a beaucoup pesé pendant cette crise.
Tout autre chose, dernière question, après je vous laisse profiter de vos vacances. On va recevoir Olivier Mine cette semaine, et comme vous avez participé deux fois à Fort Boyard, vous aurez une question pour lui, on la met de côté.
Pour Olivier Mine, eh bien, écoutez, non, j'ai des très bons souvenirs de Fort Boyard, même si c'était mouvementé, presque aussi mouvementé que mes aventures du Covid. J'ai été catapulté depuis le fort. Et... Oh, j'ai pas très envie de recommencer très vite. Voilà. Okay.
Merci beaucoup, Patrick Cohen. Profitez bien de vos vacances. On vous retrouve à la rentrée sur France 5 dans C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et sur Europe 1. Évidemment, et comme vous êtes devenue une coqueluche, selon le mot d'un papier du Monde, c'est contagieux d'être coqueluche. Donc voilà, ça va nous porter chance. Si vous voulez, vous pouvez écouter la suite. Camilla Jordana est là et on va rendre hommage à Ennio Morricone dans le journal de la culture de Damien Caprespine. Allez, une bonne journée. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.